prophète Osée.
Et il ne s'agit pas du tout de la théologie du mariage, en tout cas pas directement,
ni d'un cours de préparation pour ceux qui vont se marier parmi nous. Il y en a. Il s'agit de la question que pose le début du livre d'Osée, au chapitre 1er et au chapitre 3 en particulier, question d'interprétation délicate qui vous a peut-être arrêté, voire scandalisé, pour introduire ce livre prophétique. Après avoir parlé de celui d'Amos, nous ne pouvons pas sauter à pieds joints par-dessus cette difficulté qui est le récit apparemment d'un mariage contracté par le prophète. Nous allons prier ensemble et puis je lirai le premier chapitre et le troisième de ce livre d'Osée. Je ne parlerai pas seulement de ces deux chapitres-là. Je vous indiquerai certaines choses plus générales concernant le livre ensuite, mais nous nous concentrerons pour la plus grande part de notre temps sur cette difficulté dite du mariage d'Osée. Notre Dieu, notre Père, nous savons que toute écriture est inspirée de toi et nous est utile pour que nous soyons des hommes et des femmes de Dieu pleinement aptes à te servir. Montre-nous, nous t'en prions, comment ce livre d'Osée et même les chapitres difficiles qui sont à étudier peuvent contribuer à nous apprendre davantage de toi. Nous nous remettons à ta grâce ensemble par Jésus-Christ. Amen. Je lis dans la Bible à la colombe le premier et le troisième chapitre donc du livre d'Osée. Parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Bééri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Début du message de l'Éternel transmis par Osée. L'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se vautre dans la prostitution en abandonnant l'Éternel. » Il alla et prit Gomer, fille de Diblaïm. Elle devint enceinte et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, « Appelle-le du nom de Jisréel, car encore un peu de temps et j'interviendrai contre la maison de Jéhu à cause du sang versé à Jisréel. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, il arrivera que je briserai l'arc d'Israël dans la ville de Jisréel. » Elle devint de nouveau enceinte et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, « Donne-lui le nom de Lo-Ruhama, car je ne continuerai plus à avoir compassion de la maison d'Israël en lui pardonnant indéfiniment. Mais j'aurai compassion de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par la guerre, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. » Elle sevra Lo-Ruhama, puis elle devint enceinte et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, « Donne-lui le nom de Lo-Ammi, car vous n'êtes pas mon peuple, et moi je ne suis rien pour vous. » Au chapitre 2, il y a un grand discours qui se branche sur ces épisodes relatés au chapitre 1er, mais je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir une prochaine fois. Et je lis tout de suite au chapitre 3. « L'Éternel me dit, « Va encore, aime une femme aimée d'un amant et pourtant adultère, aime-la comme l'Éternel aime les Israélites. Quant à eux, ils se tournent vers d'autres dieux qui aiment les gâteaux de raisin. Je l'achetai pour 15 cycles d'orge, un homer d'orge et un létec d'orge. Et je lui dis, reste longtemps à moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme et je serai de même envers toi. Car les Israélites resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans stèle, sans éphode, sans théraphim. Après cela, les Israélites reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils trembleront en s'approchant de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. » Osée, c'est le deuxième témoin que, selon sa coutume au moins fréquemment attestée, le Seigneur envoie aux dernières générations du royaume d'Israël. Vous savez que Dieu avait édicté dans sa loi que toute déposition devait se trouver confirmée par deux ou trois témoins, et lui-même, pourrait-on dire, suit cette règle en suscitant souvent les témoins par pair, ou même parfois, y en a-t-il plus de deux, pour un même peuple en un même temps. Deux hommes, des femmes, qui peuvent attester simultanément et de manière donc complémentaire et confirmatoire le message qui leur est transmis par Dieu. Le premier témoin que Dieu a envoyé au milieu du 8e siècle avant notre ère, au peuple de l'Israël du Nord, le royaume dit des 10 tribus qui avait pour capitale Samarie, c'était Amos, le berger de la région montagneuse de Bethléem, et nous avons considéré son ministère dans les deux leçons d'institut biblique précédentes. Peu après Amos, sans doute assez peu de temps après lui, un autre prophète s'est levé qui s'appelait Osée et qui était lui un ressortissant du royaume du Nord. Je vous rappelle que le prophète Amos avait été envoyé au fond dans un autre état que celui dont il était sujet. Il était lui de Juda, et il y avait deux royaumes séparés à ce moment-là, le royaume de Juda et le royaume d'Israël, 10 tribus. Et Amos avait été envoyé vers ceux qui étaient ses frères de sang quand même, mais qui appartenaient à une nation différente, et d'ailleurs il s'était fait expulser. Le haut fonctionnaire, gardien du sanctuaire royal de Bethel, avait pris les choses de très haut. Mais Osée, lui, était un témoin suscité des rangs même des Israélites dans le royaume du Nord. Et il est manifeste qu'il prend le malheur qu'il doit annoncer à ces générations perverses et rebelles plus à cœur encore qu'Amos. Amos a un très grand zèle pour l'amour de Dieu et pour sa justice, et il le proclame, mais il est un peu rude. C'est le rugissement du lion qu'il fait entendre. Osée, lui, est un prophète sensible, tendre, qui éprouve une intense douleur à communiquer les discours qui dénoncent le péché et qui annoncent le malheur. Mais il le fait fidèlement. Il le fait fidèlement lui aussi parce qu'il ne s'agit pas de sa parole, mais de la parole de Dieu qui lui est confiée. Il dénonce, comme Amos, les crimes contre la justice, mais il se concentre peut-être encore davantage sur l'idolâtrie, le mélange impur de paganisme et de culte de l'éternel. Il dénonce aussi tout spécialement la vénération des forces de la fécondité qui conduisaient ces cultes païens à des pratiques qui nous étonnent, mais qui sont très bien attestées, que l'archéologie a retrouvées. Le culte était marqué par la prostitution. Rendre un culte à ces divinités, c'était s'unir à des prostituées qui étaient des prêtresses, en quelque sorte, dans les temples. D'ailleurs, très curieusement, en hébreu, l'un des mots qui est utilisé pour ces prostituées sacrées, comme on dit, c'est les saintes. C'est un mot qui vient de la racine saint, parce qu'on considérait que ça faisait vraiment partie du culte, mais de ces divinités qui ne ressemblaient pas au Dieu d'Israël, même si parfois des mélanges étaient faits par les hommes. Donc, Osée dénonce tout spécialement ces pratiques, ces confusions, et il dénonce à l'origine même de ces confusions le détournement du cœur. Israël n'a plus à l'égard de l'Éternel l'attitude profonde que le Seigneur lui avait demandé et d'abord inculqué. C'est là le grand message du prophète Amos, dont nous essaierons de voir un peu plus le détail une fois suivante. Et il l'a prêché pendant assez longtemps. Je vous rappelle le schéma chronologique. Donc, le 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est les dates en 700. Hein. Alors, Amos, lui, a prêché, vous vous rappelez, vers 765 et les années qui ont suivi. Vous voyez, vous avez lu Amos. Et il a continué un certain temps. On ne sait pas exactement combien de temps pour Amos. Et puis, donc, Osée est venu un peu après. Mais Osée, lui, il a certainement continué assez tard dans l'histoire de ce siècle. probablement jusqu'au moment où sa prophétie s'est accomplie, en 722, quand le royaume d'Israël a cessé d'exister. Ce royaume d'Israël a été détruit, la capitale rasée, et il n'y a plus eu de royaume distinct, indépendant des 10 tribus au nord, en Israël. C'est l'armée assyrienne, dans ce qui est maintenant l'Irak, qui a envahi ce royaume d'Israël et qui l'a détruit, comme Amos l'avait annoncé, comme Osée l'a annoncé ensuite. Et le prophète Osée a sans doute vécu au moins jusqu'à cette période. Il y a pourtant un seul roi d'Israël qui est nommé dans le verset premier que nous avons lu, c'est Jéroboam II, roi d'Israël, qui a eu un très long règne, c'est sous son règne aussi qu'Amos avait prophétisé, un règne apparemment prospère, c'était le calme avant la tempête. Les autres rois qui ont suivi ne sont même pas nommés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été des rois tellement inconsistants à partir de la mort de Jéroboam II, roi d'Israël. Ça a été une période d'anarchie, de complot. Il y a eu 4 rois successifs assassinés en 15 ans. Jusqu'à ce que le royaume sombre dans une débâcle complète, donc en 722. Alors il y a d'autres rois qui sont nommés, ce sont ceux de Juda, de l'autre royaume. Osée n'était pas un ressortissant de Juda, mais il savait bien que la dynastie à laquelle Dieu avait fait ses promesses, c'était la dynastie qui régnait en Juda, c'est-à-dire la dynastie des fils de David. Et c'est pour cela, sans doute, qu'il nomme d'abord les rois qui ont régné à Jérusalem, c'est-à-dire la capitale de Juda. Au temps d'Ozias, qui était le contemporain de Jéroboam, Jotham, qui a régné peu de temps son fils, Achaz, Ézéchias, roi de Juda. Ézéchias a régné même après 700. Donc, vous avez la série des rois, Ozias, Jotham, Achaz et puis Ézéchias, en Juda pendant cette même période. Voilà, vous situez de cette façon le cadre chronologique du ministère d'Osée. En ce qui concerne sa personne, on ne sait pratiquement rien de plus. Il y a un spécialiste qui s'est dit, il doit être boulanger, il devait être boulanger. Mais à partir de quoi dit-il ça? Simplement parce qu'il y a l'image de la galette brûlée d'un côté et pas cuite de l'autre dans la suite du livre. Alors, il n'est quand même pas nécessaire d'être boulanger pour utiliser une telle image. En fait, on n'en sait rien. On a pu penser que c'était peut-être un lévite. C'est possible. Parce que dans le royaume du Nord, c'était surtout les Lévites qui étaient restés fidèles à l'Éternel. Mais enfin, Dieu peut avoir suscité un prophète aussi dans une autre des tribus. Donc, nous ne savons pas, mais relativement peu nous importe. Son nom veut dire le salut, peut-être une abréviation de la formule « l'Éternel sauve » ou bien le salut. C'est la même racine que dans le nom d'Ésaïe ou dans le nom de Jésus. Vous voyez ? En français, on ne se rend pas très bien compte, mais Yeshua, le nom de Jésus, est de la même racine que Hoshea, qui est tout simplement grammaticalement une autre forme, qui est le nom d'Osée. Alors, ce qui nous étonne le plus quand nous prenons le livre d'Osée, c'est le mode extraordinaire de prédication que le Seigneur lui a demandé de mettre en œuvre. C'est par son mariage et la naissance de 3 enfants que Dieu a demandé au prophète Osée de communiquer son message. Déjà, ça serait un peu bizarre si c'était un mariage tout à fait ordinaire. Mais le sujet est un peu scabreux. C'est une femme dite de prostitution, littéralement, une prostituée, femme de prostitution, appelée Gomer, d'après ce que nous dit le récit, que le prophète a épousée. Comment comprendre ce qui nous est dit là? Je crois qu'il y a au moins une chose qui est claire, et c'est là-dessus qu'il nous faut d'abord mettre l'accent, c'est le message qui devait être communiqué par ce moyen. Il y a un symbolisme qui est mis en jeu, que nous pouvons, je crois, très, très aisément décoder, et qui nous fait bien comprendre le message que le prophète dit en clair, en particulier au chapitre 2, mais aussi un peu plus loin. Le mariage, c'est le symbole de l'alliance. Le mariage est une alliance. C'est comme ça qu'il est défini dans la Bible. Eh bien, le mariage sert de symbole à l'alliance de Dieu avec son peuple. Le mariage représente ici l'alliance conclu déjà avec Abraham, mais renouvelé au moment de Moïse et par le moyen de Moïse, entre Dieu et Israël. Et pour correspondre aux infidélités à l'alliance, à l'idolâtrie en particulier, qui est une trahison de l'alliance de Dieu, les êtres humains se tournant vers d'autres, des amants, les Baals, les Astartés, se tournant vers d'autres que le véritable époux, selon l'alliance du peuple d'Israël, eh bien, ces infidélités à l'alliance sont représentées comme des prostitutions et des adultères. Voyez, ça va dans la logique de la représentation de l'alliance de Dieu comme d'un mariage. Si l'alliance de Dieu est un mariage, les trahisons de l'alliance de Dieu, en particulier au profit d'autres dieux, sont des adultères et des prostitutions. Alors, l'utilisation de l'image de la prostitution pour représenter l'infidélité à l'alliance était d'autant plus appropriée que dans l'idolâtrie, le culte des faux dieux, il y avait en plus de la prostitution au sens littéral, comme je vous ai dit. Dans leur temple et sur leur haut lieu, c'est-à-dire les sommets de collines où ils dressaient leurs autels, ils pratiquaient la prostitution. Donc, évidemment, c'était vraiment une image très frappante pour souligner l'infidélité d'Israël au vrai Dieu. Alors, le prophète part de ce symbolisme double, le mariage correspond à l'alliance, la prostitution aux infidélités à l'alliance, et que dit-il plus particulièrement? Il dit plus particulièrement que les enfants de ce mariage, c'est-à-dire les habitants du pays, en quelque sorte, ils sont représentés par les enfants du mariage, vont subir les jugements de Dieu pour les infidélités, que ces infidélités ne peuvent pas ne pas attirer les justes jugements de la part de Dieu. Et alors il leur donne des noms symboliques qui évoquent cela. Le premier, Jisréel. Là, il y a plusieurs composantes de sens, en fait, pour ce nom, Jisréel, ou Jisréel en hébreu, vous pouvez mettre J ou Y en français, en fait, ça se prononce Dieu. Il y a un souvenir historique qui est mentionné dans le texte. C'est en souvenir du sang versé à Jisréel, parce que c'est un nom de lieu aussi. Jéhu, le premier des rois de la dynastie qui régnait à ce moment-là à Samarie, était venu au pouvoir en faisant un grand massacre de la famille régnante qui était à Samarie à ce moment-là, puis il en avait rajouté, il avait profité de la visite d'un roi de Juda pour le massacrer aussi, et massacrer une partie de sa famille. Alors, c'est ce sang versé à Jisréel autrefois qui est rappelé par l'oracle de jugement. Et puis en même temps, il y a le sens du mot. Jisréel veut dire Dieu disperse. Dieu disperse. Littéralement, il dispersera Dieu. Il y a un autre sens possible encore, qui n'apparaît pas dans ce que nous avons lu ce matin, mais qui apparaît au chapitre 2. Disperser, c'est le geste auguste du semeur. Ça veut dire aussi semer. Donc il y a un double sens à ce mot Jisréel. Il évoque le jugement de la dispersion avec l'exil, mais il peut évoquer aussi un recommencement de nouvelles semailles, selon la grâce de Dieu. Dieu sème, Dieu disperse, mais c'est aussi comme une semence d'avenir, et ça, dans le chapitre 2, c'est un sens qui est repris, mais nous en parlerons plutôt la fois prochaine. Deuxième enfant, Lo Ruhama. Lo Ruhama, en hébreu, ça veut dire celle qui n'est plus traitée avec tendresse. Ruhama, c'est un participe passé, chérie, du verbe chérir, avoir de la compassion, avoir de la tendresse. Et l'eau, c'est la négation, celle qui n'est pas chérie. Voilà le nom qui est donné à cet enfant. Dieu qui a eu compassion et compassion si longtemps devant l'endurcissement, finit par dire, la compassion, ça va cesser. L'eau, Ruhama. Et puis, troisième enfant, l'eau ami, encore l'eau, vous voyez la négation, ne pas. Et puis ami, c'est mon peuple, pas mon peuple. Vous étiez mon peuple, par alliance, mais je suis obligé de vous considérer comme pas mon peuple. Donc, le message, c'est un message qui dénonce l'infidélité comme une prostitution et qui annonce le malheur en conséquence des péchés, avec les noms des trois enfants. Et puis le message, c'est encore ce que le chapitre 3 rapporte. Va encore, rachète une femme apparemment qui se livre à la prostitution. C'est le message de la grâce de Dieu qui, après avoir jugé, revient dans sa grâce à son peuple qu'il a choisi, ne l'abandonne pas et lui permet un recommencement. C'est le message de cette grâce de Dieu qui ne peut pas faire fi de la justice, mais qui dépasse toute justice, qui revient et qui restaure, qui rachète, parce qu'elle est rachetée, le prix est même indiqué. Et associé à cette restauration et ce rachat, c'est assez intéressant, il y a une période d'épreuve. Ça joue pour le peuple d'Israël. Une période où les enfants d'Israël, nous explique le discours, nous l'avons lu, resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans stèle, sans éphod et sans théraphim. C'est la privation du temps d'exil qui est ici annoncée. Et pourquoi ces six termes? Je crois que c'est très clair. Le roi, c'était Dieu qui avait donné la royauté, même si ça s'était fait dans des conditions complexes. Roi, chef, sacrifice. Excusez-moi, je ne m'explique pas de façon tout à fait claire. Donc les rois, c'était Dieu qui les avait donnés. Mais les chefs, le plus souvent, c'était les hommes qui étaient sortis eux-mêmes du peuple, qui n'avaient pas été institués par Dieu. De même, les sacrifices, c'est Dieu qui avait dit de les offrir. Mais les stèles, c'est-à-dire ces pierres dressées, venaient du paganisme. C'était le faux culte, c'était là que les Israélites paganisés offraient leurs offrandes. L'éphod, nous lisons dans la loi de l'éphod du grand prêtre, l'éphod était un élément de ce que Dieu avait donné à Israël. Mais les téraphim étaient exclus. C'était une coutume païenne. C'était des petites figurines familiales, on pratiquait la divination avec, etc. Alors que dit Dieu en disant les Israélites resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans stèle, sans éphod, sans téraphim? C'est que dans l'exil, ils seront privés à la fois du vrai culte, les instruments du vrai culte qu'ils avaient reçus de Dieu, un roi, des sacrifices, l'éphod, et qu'ils seront privés également des instruments du culte idolâtre, du faux culte qu'ils avaient pratiqué eux-mêmes, les chefs qu'ils s'étaient donnés, les stèles et les téraphimes. Un temps d'épreuve. En attendant que vienne le nouveau David attendu, vers lequel les Israélites reviendront dans la suite des temps. Une promesse de restauration, donc, l'Éternel rachète dans sa bonté. Il y aura un temps d'épreuve, de purification, correspondra au temps d'exil, mais il y a un avenir de salut que Dieu prépare. Voilà en gros le message. Je crois que cela, c'est tout à fait clair. Le mariage d'Osée, ce qui est rapporté de lui au chapitre 1er et au chapitre 3, nous permet de bien le discerner. Mais qu'en a-t-il été de ses faits et gestes à lui? Est-ce que vraiment il a été prendre une prostituée pour en faire sa femme? Et puis une deuxième fois, enfin, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Si le message communiqué par ce qui est rapporté est clair, ce qui est rapporté, nous ne savons pas très bien comment le prendre. Et c'est le point que je vais essayer de vous exposer. Il me semble qu'il y a trois grandes options. On peut toujours diversifier, d'ailleurs je vais vous en dire un mot. Mais il y a trois grandes options à ce propos. Il y a d'abord l'option qui dit « ce sont des faits, littéralement, des faits biographiques ». Eh oui, Dieu lui a dit « va épouser une prostituée, l'épouser une prostituée ». C'est elle devenue sa femme, effectivement, ils ont eu tous ses enfants, etc. Ça, c'est la première interprétation qui a été adoptée par de grands noms dans l'histoire de l'Église, dans l'Antiquité, ou par Luther. Luther adoptait cette interprétation et elle est adoptée par pas mal d'auteurs modernes. Je pense qu'on peut dire que parmi les auteurs modernes, il y a une majorité en faveur de cette interprétation-là. Deuxième interprétation, nous avons une sorte de parabole, dont le sens est figuré. Non pas seulement selon ce que je viens d'exposer, que tout cela doit servir à communiquer le message de Dieu, sur son alliance avec Israël, mais dans ce sens que, en fait, ce n'est pas arrivé comme ça, qu'il faut, en lisant le texte, comprendre autre chose. Le sens est figuratif. Ça, c'est la deuxième interprétation. Et puis, la troisième, c'est une interprétation plutôt romancée, semi-littérale. Un auteur qui l'expose, mais qui ne la défend pas lui-même, l'appelle une interprétation romantique. Alors que pensent ceux qui adoptent l'interprétation semi-littérale? Nous allons commencer par elle, parce que c'est celle que je vais écarter d'abord. Ils pensent que c'est vraiment de la biographie du prophète, hein, tout ce qui nous est rapporté ici. Il a eu des malheurs conjugaux, mais il ne faut quand même pas croire les choses telles qu'elles sont dites exactement. Ce n'est pas Dieu qui d'abord a dit « va épouser une prostituée ». Puis alors il l'a fait, etc. En fait, il avait épousé une femme, il croyait qu'elle était très bien, elle avait des tendances, malheureusement, à l'infidélité, elle lui a été infidèle. Il a compris par son propre malheur qu'elle devait être le sentiment du Seigneur envers Israël, puisqu'il était bafoué, trahi par Israël, comme lui-même osé l'avait été par cette femme, par Gomer. Et c'est ainsi qu'il a compris le cœur de Dieu pour Israël, et qu'il a été conduit à prêcher le message d'amour et de grâce qu'il a prêché. Alors après coup, réfléchissant à tout ça, il s'est dit, mais c'est le Seigneur qui a voulu que je fasse toute cette expérience conjugale malheureuse, donc en fait c'est lui qui m'a dit, va épouser cette femme. Voilà comment certains auteurs reconstruisent cette histoire. Donc ce sont des faits réels, mais ce n'est pas comme la chose nous est racontée. À mon avis, ce dernier trait exclut ce type d'interprétation pour nous. C'est très joli, c'est romancé, ça plaît beaucoup à l'esprit moderne, mais la Bible nous dit que Dieu s'est adressé au commencement à Osée en lui disant « va épouse une femme de prostitution, prends des enfants de prostitution ». Alors, ce n'est pas ce que l'on veut nous faire croire, c'est pas après coup, non, c'est pas ça. Donc je ne crois pas que si nous respectons la parole de Dieu, telle qu'elle se présente à nous, nous puissions admettre cette façon de réécrire, en fait, le scénario. Et ce qui se cache par derrière, souvent, n'est pas non plus très satisfaisant. Ce qui se cache par derrière, c'est l'idée que les prophètes, les gens qui ont écrit dans la Bible, en général, ont surtout dit le produit de leurs propres expériences et réflexions. C'est des gens qui ne croient pas vraiment que Dieu donne son message comme ça, et qui se disent, bon, ça nous est présenté comme si Dieu avait donné son message comme ça, mais en réalité, c'est le fruit des réflexions humaines. Dieu peut travailler par les réflexions humaines, je suis tout à fait d'accord. Il arrive dans certains cas que Dieu inspire des hommes par le moyen de leurs expériences au cours de toute une vie, c'est vrai. Mais quand il nous est dit que la parole de Dieu est venue, qu'il y a une vision, etc., il faut prendre les choses comme elles sont dites. Et ne pas avoir honte, si vous voulez, d'un Dieu qui fait des miracles de cette sorte, qui intervient en quelque sorte verticalement du ciel. Et oui, notre Dieu en est capable aussi. Il peut travailler de l'intérieur, il peut travailler de cette manière verticale aussi. Donc, j'écarte cette interprétation semi-littérale et romancée. Je crois vraiment que ça ne peut pas nous satisfaire si nous voulons obéir à l'Écriture sainte. Alors, je remarque ensuite qu'il y a plusieurs versions en ce qui concerne les deux interprétations A et B. Pour l'interprétation biographique, littérale, l'un des problèmes, c'est la question du rapport entre le chapitre 1er et le chapitre 3. Et là, vous avez trois versions. Ou bien la femme du chapitre 3, c'est la même qu'au chapitre 1er, la même fois, la même première fois. Certains auteurs qui pensent que c'est la même histoire qu'au chapitre 1er, mais qui nous est racontée d'une autre façon. Ou bien c'est la même qu'au chapitre 1er, mais une deuxième fois. Après qu'elle avait été infidèle et qu'elle avait abandonné le domicile conjugal. Ou bien, troisième hypothèse, c'est une autre femme, une deuxième femme. Donc, pour l'effet biographique, vous avez trois possibilités. Gomère, première fois, Gomère, deuxième fois, et puis autre femme. Quant au sens figuré, vous avez aussi plusieurs versions. Là aussi, c'est une interprétation qui a été défendue par beaucoup de gens très prestigieux dans le cours de l'histoire de l'Église. Calvin, par exemple, lui défendait le sens figuré. La plupart des grands interprètes juifs de l'Ancien Testament aussi. Les grands commentateurs dans le judaïsme et des pères de l'Église, Jérôme et Origène, par exemple, Jérôme le traducteur de la Vulgate. Bon, alors, le sens figuré, certains ont dit, c'est une vision. Ce qui nous est rapporté, c'est une vision qu'a eue le prophète. Comme dans les livres prophétiques, souvent, ce sont des visions qui nous sont décrites. Donc, ça ne s'est pas passé en réalité. C'est une vision qu'il nous rapporte. Deuxième interprétation, c'est un discours parabole. Il dit cela, mais il faut le comprendre comme une simple parabole. Troisième interprétation, c'est un mime prophétique. Les prophètes, parfois, jouaient des espèces de scénettes pour illustrer leur message, un peu comme font certains groupes modernes. Nous avons, par exemple, au chapitre 13 de Jérémie, le récit de Jérémie, qui va prendre une ceinture qu'il a portée autour des reins pendant un bon bout de temps, c'est selon l'ordre de l'Éternel, qui va la cacher dans un coin de rocher, dans une fente de rocher, qui la récupère quelque temps après complètement pourrie, et qui montre ça au peuple en disant « Vous étiez la ceinture que l'Éternel s'était attachée, mais vous êtes complètement pourrie, et l'Éternel va se séparer de vous. » Donc c'était une petite scène, un mime, et Ézéchiel en a fait plusieurs, parfois même très amusantes, très bizarres pour nous. Les prophètes, assez souvent, jouaient un mime, une scénette, si vous voulez, pour illustrer leur message. Alors la troisième version, pour le sens figuré, c'était que nous avions ici, non pas une vision, non pas simplement un discours parabole, mais un mime. Deux mimes, au chapitre 1er et au chapitre 3. Personnellement, je pense que cette interprétation qui y voit un mime est beaucoup plus attirante que les deux autres, parce qu'il n'y a pas d'indication que ce puisse être une vision. Il est question là de Gomère, une personne bien définie, et il me semble que ce genre de prédication a eu le plus de chances d'être présenté sous forme d'une scénette, d'un mime joué devant le peuple. Donc, pour le sens figuré, c'est la version que je vais privilégier. La grande question maintenant, c'est de savoir si ce sont des faits de la biographie du prophète ou si c'est un mime. Voilà comment, finalement, je présente l'alternative ici. Pour la première version, qu'il s'agisse vraiment de la biographie du prophète, comme Luther l'a pensé, je crois qu'il faut dire qu'il y a un énorme argument, qu'il est très fort. C'est que, quand on lit le texte, c'est ça ce qu'on pense spontanément. Ça a l'air d'être ça. C'est le style des récits historiques. On nous dit, l'Éternel lui dit, il va, bon, il est allé. Il n'y a aucun indice, en tout cas à première vue, qu'il faille s'écarter de ce sens-là. Et c'est la force de l'interprétation littérale. Je ne veux pas du tout la cacher. Elle est là, me semble-t-il. La force de cette première option. Mais sur l'autre plateau de la balance, il y a aussi, me semble-t-il, pas mal de choses. Si ce n'est pas le sens littéral biographique qu'il faut retenir, alors c'est l'autre, pratiquement. Nous sommes réduits à ce choix. Or, il y a de grosses difficultés à admettre la première interprétation. Première difficulté, la difficulté morale. Calvin a dit que si vraiment Osée avait fait ça, il aurait dû être rouge de honte, se cacher, ne plus jamais prendre la parole au nom du Seigneur. Je crois que Calvin là y allait un peu fort, que nous devons faire très attention avant de projeter nos jugements moraux sur ce que le Seigneur commande. Ce que le Seigneur, nous ne comprenons pas toujours très bien. Ce qu'il nous commande, c'est pas à nous de juger ce qu'il dit. Mais enfin, on peut quand même dire que c'est une difficulté. Quand on pense que Dieu avait dit de supprimer entièrement les prostituées du pays, qu'il y a un châtiment terrible pour une fille qui se livre à la prostitution simplement à des rapports dits préconjugaux dans la maison de son père. Sauf si le mariage est tout de suite consacré après, il y avait des punitions fortes dans la loi. Alors, quand on pense à ça, que Dieu ait dit, va épouser une prostituée, bon, c'est quand même difficile à avaler. Et puis, il me semble, moi, que ça serait gênant, je dirais, du point de vue du comportement de Dieu, je veux dire que Dieu me semble traiter autrement ses serviteurs. Il ne les utilise pas comme des marionnettes, juste pour avoir une scène symbolique à fort impact. Il ne va pas, je dirais, sacrifier la vie personnelle d'Osée en le conduisant à épouser une femme indigne, avec qui il ne pourra avoir aucune véritable communion. Mais moi, en tout cas, il ne me semble pas que Dieu fasse comme ça, tout au long de la Bible. Alors, il y a une difficulté quand même qu'on doit reconnaître. Deuxième difficulté, la difficulté pratique. C'est pour illustrer le message du jugement qui va venir. Yisraël, Loru Hama, Loami, et puis aussi la restauration. C'est pour illustrer le message qu'il avait apporté au peuple causé a dû faire ce qu'il a fait. Or, si c'est dans sa biographie, ça s'est étalé sur des années et des années. Il a fallu plusieurs années pour que ces trois enfants naissent successivement. Voyez. Alors, quel a été l'effet d'une telle prédication répartie comme ça? Je me rappelle que mon père considérait que c'était un argument très très fort dans ce débat. C'est vrai que ça pose quand même un problème. On peut toujours dire oui, il a répété sa prédication chaque fois qu'un enfant naissait. Enfin, c'est pas dit non plus comme ça. Et on se demande par rapport à l'efficacité du moyen que Dieu avait décidé d'utiliser. Troisième difficulté, le rapport entre le chapitre 1er et le chapitre 3. À mon avis, on pourrait dire que c'est le talon d'Achille, vous savez, le lieu vulnérable dans la première interprétation. La preuve, c'est que les gens même qui adoptent la première interprétation ne sont pas d'accord entre eux, qu'il y a trois interprétations, aucune n'est vraiment satisfaisante. Si on dit la femme du chapitre 3, c'est la même Gomère la première fois. Là, il y a deux difficultés. Première difficulté, elle n'est pas appelée Gomère. Elle n'est pas appelée ta femme. Elle est simplement nommée une femme. Non, si c'était la première fois, il est normal qu'elle ne s'est pas appelée ta femme. Mais disons, elle est appelée, elle n'est pas appelée Gomère. C'est déjà un peu étonnant. Les détails ne concordent pas. Et surtout, le chapitre 3 commence par « L'Éternel me dit, va encore !» Va encore. Alors, il y a un mot en hébreu là, il n'y a pas possible de passer autour de ce mot. Ça ne peut pas être une première fois si c'est « va encore ». Manifestement, le livre est écrit de telle sorte qu'après avoir lu le chapitre 1er, nous venions au chapitre 3 et que nous comprenions cet « encore » comme impliquant un certain élément de répétition par rapport au premier chapitre. Donc, à mon avis, le « encore » élimine cette première interprétation. Deuxième interprétation, c'est Gomère la deuxième fois. Là, c'est satisfaisant pour le « encore ». Mais c'est là que la façon de parler, une femme ne convient pas. Ce n'est pas ta femme, Gomère, mais c'est une femme. Or, si c'est la deuxième fois, elle est bien connue, ce n'est pas une façon de l'appeler qui convienne véritablement. Et d'ailleurs, qu'il est à la racheter, c'est aussi un problème. Il a à la racheter le prix d'une esclave. Le prix d'une esclave, c'est 15 cycles d'argent, c'est 30 cycles d'argent, et ici, d'après ce que j'ai lu dans les commentaires, l'orge qui est fournie avec les 15 cycles correspond à peu près à la valeur de 15 cycles. Vous voyez, vous avez 15 cycles en espèces et 15 cycles en nature sous forme d'orge. Un létèque, 330 litres à peu près, voilà ce que j'ai lu. Donc, il l'achète le prix d'une esclave, mais c'est sa femme, elle lui appartient, si c'est Gomère. La deuxième fois, elle a pu fuir la maison d'Osée, il n'a pas à la racheter, vous voyez. Donc, ça ne colle pas, c'est une femme, c'est pas Gomère, c'est pas ta femme,
Il doit la racheter, donc ça ne convient pas. Une autre femme, oui, là ça colle avec 20 encore, et une femme. C'est pour ça qu'il y a des gens qui adoptent cette interprétation-là. Mais il y en a très peu quand même, très très peu parmi ceux qui adoptent l'interprétation littérale. Pourquoi est-ce qu'il y en a si peu? Première raison, c'est quand même énorme. On trouve déjà que c'est bien dur à accepter comme ordre de Dieu si c'est arrivé une fois, si c'est arrivé deux fois, avec deux femmes différentes. Bon, ça accroît encore les difficultés sur ce plan moral. Et donc, c'est un premier point. Deuxième point, ça ne correspond pas au symbolisme du message. Parce que Dieu ne prend pas une autre femme quand il restaure Israël. Alors, s'il a épousé vraiment une deuxième femme, bon, vous voyez, donc ça n'a pas l'air de coller non plus. Alors, ça crée, je dirais, une présomption forte qu'il ne faut pas comprendre littéralement. On entre dans trop de complications, trop de difficultés inextricables si on comprend de façon littérale. Et puis, il y a encore un dernier élément dans le détail de la formulation. Ça, on a rarement remarqué ça, mais pour moi, c'est très convaincant. Et je signale que ce n'est pas du tout bien traduit par liberté prise avec le texte dans la Bible en français courant. La Bible en français courant, en général, est une Bible fiable. Hein, j'en connais les traducteurs, je les fréquente assez souvent, et donc je ne veux pas du tout la dénigrer. Mais je dis que là, ils ont pris des libertés avec le texte qui sont malheureuses. Dans la Bible en français courant, on a « Va, épouse une femme qui pratique la prostitution sacrée, les enfants que tu auras d'elle seront ainsi sans aucun droit. » D'abord, le mot dans l'original ne dit pas « prostitution sacrée », ce mot « sacré » est rajouté, mais ce n'est pas non plus, quant au reste des termes employés, les termes exacts sont bien dans la Bible à la Colombe, « Va, prends une femme de prostitution et des enfants de prostitution. » Pas des enfants sans aucun droit, etc. Ça, c'est, vous voyez, c'est déjà une interprétation rajoutée. Ils sont appelés enfants de prostitution. Alors, il me semble que si on prend les choses selon l'interprétation littérale, il y a une double difficulté insoluble à cet endroit. D'abord, pourquoi les appeler enfants de prostitution? Ce sont les enfants que le prophète a avec sa femme légitime. Il alla vers Gomer, elle lui enfanta, elle devint enceinte, elle lui enfanta Israël. Il n'y a aucune raison de s'appeler enfant de prostitution. Si ce sont les enfants de Gomer et d'Osée. Donc l'expression ne convient pas. Vous voyez? C'est d'ailleurs bien pour ça que la Bible, en français courant, vous voyez, n'a pas traduit littéralement. A essayé de tourner la difficulté en disant des enfants qui n'auront aucun droit, etc. Mais vous voyez, c'est bien parce que ça ne colle pas avec l'interprétation biographique littérale. Deuxième difficulté, le verbe « prend ». Prendre une femme, d'accord, mais on ne prend pas des enfants. Jamais le verbe « prendre » n'est utilisé pour les enfants qu'on engendre. Monsieur Richard ?
Ne peut-on pas penser que cette seconde femme aurait été mère ?
Mais ça, c'est la première, hein. C'est, de toute façon, c'est la première, celle dont nous parlons, c'est au premier chapitre, et c'est Gomer, de toute façon. Je crois qu'il est clair que les enfants de prostitution dont il est question ici, ce ne sont pas les enfants qu'elle avait avant, mais ceux dont il est question après, car ils doivent représenter le peuple sur lequel les jugements tombent. Donc, la plupart des commentateurs, en tout cas, la très grande majorité, comprend qu'il s'agit des trois enfants, puisque c'est sur eux que tout le projecteur se braque dans les versets qui suivent. Donc s'il est dit « va, prends une femme de prostitution et des enfants de prostitution », ça doit être ceux dont il est question tout de suite après. Hein. Après, elle est nommée, Gomer, après, ils sont nommés, Israël, Lo-Ruhama, Lo-Ami. Oui. Bon, donc, si nous lisons de cette façon, comme je vous propose de le faire, l'expression « prendre » ne convient pas à l'interprétation biographique. Alors que si c'est un mime, toutes les difficultés tombent. Qu'a fait le prophète, me semble-t-il, sur la base de tous ces indices? Il a joué une...
Il lui a dit, amène tes enfants aussi, enfants de prostitution. Il les a pris.